l'identité espagnole est liée à l'accord des identités régionales. Alors on ne peut pas être espagnol sans reconnaître les identités des régions d'une façon très claire. Il y a une diversité qui est très bonne pour l'Espagne, mais qui pose des problèmes de temps en temps. Alors quand il y a un problème d'identité qui va être rempli par la création de nouvelles identités politiques, l'avantage de la diversité peut devenir un problème sérieux.
Un mois avant les élections européennes, l'Espagne vote ce dimanche pour élire son Parlement. Depuis la mort de Franco et le rétablissement de la démocratie en 1975, l'économie a opéré un redressement spectaculaire. On parlait à l'époque de miracle espagnol, qui a permis au pays d'adhérer à l'Union européenne en 1986. Mais les quelques 46 millions d'Espagnols sont répartis dans 50 provinces, avec leurs spécificités, parfois leur langue, et souvent des intérêts divergents. D'où la difficulté de définir une identité espagnole dans une société civile où le féminisme est une composante très forte. Les dernières manifestations du 8 mars, journée internationale du droit des femmes, ont été les plus massives de l'Union européenne.
On est là. Et je pense que ça, c'est aussi une des forces du mouvement féministe en Espagne, c'est qu'on n'est pas rentré chez nous. On continue à être dans la rue.
L'autre élément indispensable à la compréhension de l'Espagne d'aujourd'hui, c'est bien sûr son histoire contemporaine. Les plaies du franquisme sont encore loin d'être cicatrisées et devant les difficultés économiques, revenues depuis la crise mondiale de 2008, les mouvements nationalistes reprennent de la consistance. Comme dans d'autres pays, notamment à l'est de l'Europe, ils remportent des succès électoraux. En Andalousie, le parti Vox est devenu en décembre dernier le premier parti d'extrême droite à obtenir des sièges dans un parlement régional. C'est précisément à un meeting électoral de Rocío Monasterio, l'une des figures de Vox, que commence ce reportage de Marie-Pierre Véro. Nous sommes à Ávila, une centaine de kilomètres au nord-ouest de Madrid.
France Inter, Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
La salle des congrès, du meeting, les sièges sont tous recouverts d'un drapeau espagnol ou du drapeau de Vox.
Aquí, 400 personas.
420.
420 personnes vont pouvoir. Et tout est réservé, todo es reservado?
Hay 405 reservadas.
405,
vale, pero creemos que va a haber mucha gente sin reserva.
Meeting de Vox, donc, ce soir à Ávila, la campagne officielle pour les législatives de ce dimanche 28 avril n'a pas encore commencé, mais Vox, quand même, réunit ses partisans dans tout un tas de petites villes du pays avant le grand lancement de la campagne. Et ici, à Ávila, ils ont l'avantage d'avoir à la fois une ville très conservatrice, marquée par la religion, Sainte Thérèse d'Ávila, bien sûr, et qui abrite également l'École nationale de police, donc tout un imaginaire peut-être propice aux partisans de Vox, qui commence déjà à arriver une heure avant le début du meeting, dans le Palais des Congrès.
Buenas noches, señores y señoras.
Pourquoi est-ce que vous êtes là ce soir?
Parce que c'est un parti qui veut l'unité de l'Espagne, qui ne veut pas briser l'Espagne. Ça me semble intéressant de venir les écouter. On va voir ce qu'ils nous proposent.
Ce sont les seuls qui vont réellement avoir la main ferme pour suspendre l'autonomie, s'il le faut, et faire respecter la loi. Nous ne demandons pas plus qu'ils respectent la loi, comme nous, les autres Espagnols, nous respectons la loi. On ne peut pas faire un référendum illégal. Et je pense que la seule présence de Vox au Parlement andalou a déjà permis d'ouvrir des débats. Des débats sur la loi contre les violences de genre et d'autres questions intéressantes comme l'avortement, des débats qui étaient fermés. Mais aujourd'hui, je pense que ce qui est le plus important, c'est l'unité nationale.
On va voir des jeunes. Parce qu'il y a beaucoup de personnes d'un certain âge, mais il y a aussi pas mal de jeunes qui agitent les drapeaux, à qui on va demander ce qui les intéresse chez Vox.
C'est surtout pour l'unité de l'Espagne. L'Espagne est un grand pays qui peut faire beaucoup et on ne peut le diviser comme veulent le faire ces indépendantistes sans honte.
Mais le parti s'attaque aux femmes. Ils veulent changer la loi contre les violences.
Moi, je ne le vois pas comme cela. Moi, en tant qu'homme, je pense que les deux sexes ont les mêmes droits. On a déjà le mot égalité, on ne va pas le remplacer par féminisme. Moi, ce que je vois, c'est un féminisme suprémaciste qui veut être au-dessus des hommes. C'est à cela que nous sommes confrontés aujourd'hui.
Et quel âge avez-vous ?
J'ai 17 ans.
C'est un parti d'extrême droite. On dit que c'est un parti d'extrême droite. Ça ne vous moleste, ne vous da miedo ?
Ça ne me fait pas peur.
Défendre son pays, ce n'est pas de l'extrémisme.
C'est cela. Il ne faut pas avoir peur de défendre son pays.
Moi, ce que je vois, c'est que dans ce parti, ils veulent s'occuper de l'Espagne.
Oui, comme nous, ils veulent défendre l'Espagne et les Espagnols.
Et les Espagnols.
Nous voulons en finir avec le féminisme radical. Nous en avons assez du tout et tous, hein ? Nous n'en pouvons plus. Il faut se débarrasser de ceux qui veulent nous imposer leur manière de parler, la pensée unique. Ils veulent entrer dans les collèges pour nous expliquer comment éduquer nos enfants. Ils veulent expliquer à un petit garçon qu'il doit essayer d'être une fille et aux filles qu'elles doivent se transformer en garçon. Mais bon, ça suffit. Nous voulons parler de l'Espagne rurale qui en a marre de voir Madame Merkel venir lui imposer des normes sans fin. Ça suffit de voir Merkel et Macron nous dicter notre conduite à tous. C'est à eux de nous dire combien de migrants nous devons accueillir, comment nous devons ouvrir nos frontières. C'est à eux de décider de cela, et bien non. Nous voulons en parler aussi de la tauromachie. Oui, parce que nous aimons les taureaux et nous aimons aller à la corrida. Cela fait partie de notre patrimoine. Cela fait partie de notre culture. Cela fait partie de notre identité. Vox est le vote le plus utile pour défendre l'Espagne et pour défendre la liberté.
Viva España!
Des accents qui résonnent sans doute jusqu'au Valle de los Caídos, le monumental mausolée commandé par Franco. En ces temps où le nationalisme redresse la tête, on ne peut en effet s'exonérer d'une halte dans ce lieu de pèlerinage d'une certaine Espagne, très fréquentée depuis que le gouvernement Sanchez a annoncé son intention d'exhumer le dictateur en juin prochain.
En el vigésimo aniversario de la victoria nacional, se inaugura la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos.
Nous approchons donc del Valle de los Caídos, la vallée de ceux qui sont tombés. On est à un peu moins d'une heure de Madrid, au pied de la Sierra de Guadarrama. Et alors, il y a une immense croix qui fait 150 mètres de haut, qu'on aperçoit depuis l'autoroute, déjà avant même d'arriver ici à l'entrée assez monumentale de ce parc. Le mausolée vient d'ouvrir, il y a déjà des bus de touristes. C'est quand même une curiosité que de venir voir cette abbaye, ce mausolée qui a été creusé dans la montagne pendant 18 ans, entre 1940 et 1958. Ce sont des prisonniers républicains, des prisonniers politiques qui ont dû creuser cette montagne où repose désormais leur bourreau, le dictateur Franco. Les gens s'autographient devant. Pourquoi est-ce qu'on vient ici ? C'est la question qu'on va leur poser tout à l'heure. Qu'est-ce qui les amène dans ce mausolée ?
Nous sommes venus parce que nous ne l'avions jamais vu.
Vous n'êtes jamais venu ici auparavant, et pourquoi maintenant est-ce que vous venez ?
Eh bien, en partie aussi parce qu'il y a une polémique et que cela incite à venir voir. Et connaître le monument, le général et la croix. Et puis connaître aussi les lieux où sont enterrés de nombreux Espagnols qui sont morts et ont donné leur vie pour des idées d'un côté ou de l'autre, mais qui, au final, ont été rassemblés ici. C'est une partie des morts seulement. Beaucoup manquent des deux côtés. Il y a des fosses communes, mais bon. Les actes de barbarie durant la guerre civile, ce sont autant les droites que les gauches qui les ont commis. Et cela reste un symbole, même s'il fut un dictateur. Je crois que cela reste un symbole, comme un symbole de réconciliation. Bon, la guerre civile a été une tragédie énorme pour ce pays. Cela a fait plus de 70 ans qu'elle est finie et il est temps de laisser les choses filer, non ? Et tomber dans l'oubli. Avec la démocratie, on a oublié les nombreuses horreurs de la guerre civile. On a légalisé le Parti communiste, on a eu des élections libres et démocratiques dans ce pays. Et c'est cela qui importe. Ce qu'il faut, c'est avancer, pas reculer. Ce qui est arrivé, Dieu merci. Maintenant, il faut construire un avenir dans l'Europe et que cela serve de souvenir pour ne pas répéter les erreurs qui ont été commises.
On est donc dans la montagne, il y a sous cette immense voûte où... Et alors là, dans l'entrée, deux énormes archanges avec des épées qui veillent sur le portail qui mène à la nef. C'est vraiment un lieu qui n'incite pas à la paix ou à la joie, mais plus à la peur. Ouais.
L'histoire, c'est l'histoire. Même mauvaise, c'est l'histoire. Mais ça, c'est très typique de la gauche, les polémiques. Personne ne crée de polémique sur la statue de Lénine ou de Marx ou d'Engels. Moi, je crois que c'est arrivé il y a plus de 80 ans. C'est plus une idée de la gauche que d'autre chose. Personne d'autre ne s'en souvient. Les gens qui veulent se souvenir de la guerre civile espagnole ou sortir les os de Franco n'ont même pas vécu cette époque. Vous auriez l'idée d'aller sur l'île d'Elbe pour saccager la tombe de Napoléon, non? L'histoire, c'est l'histoire, même si l'histoire n'est pas comme il la raconte. Franco était un général de la République, de la Seconde République espagnole. Et ceux qui ont provoqué la guerre civile, ce n'était pas Franco, c'était le PNUV, l'extrême gauche, le Parti socialiste, en 1936. Voilà ce que je sais, ce que j'ai lu et ce que je crois. Moi, je suis pour qu'on laisse les morts en paix.
Un peu de mauvaise foi, une pincée d'ignorance et quelques contre-vérités, il est sans doute temps d'aller consulter un historien. Et justement, l'homme dont nous poussons la porte est l'un des rédacteurs de cette loi de mémoire historique.
Los moros que trajo Franco en Madrid quieren...
Buenos días, soy la periodista francesa. Vengo a ver el señor Álvarez Junco.
Las que son republicanas no pasarán, no pasarán, no pasarán.
Je m'appelle José Álvarez Junco, je suis historien.
Quel est le sens du Valle de los Caídos? Les visiteurs qui s'y rendent disent c'est un hommage aux morts, à tous ceux qui sont tombés lors de la guerre civile, d'un côté comme de l'autre.
Oui, c'est la présentation idéologique qu'en a fait le régime. Mais c'est un monument à la victoire, clairement. Le Valle de los Caídos est surmonté d'une croix, une énorme croix. La croix, c'est le symbole de l'un des côtés dans la guerre civile. Et ils sont enterrés en plein cœur, le fondateur de la phalange et le dictateur, qui fut le vainqueur de la guerre civile. C'est donc un monument d'hommage à la victoire. C'est la vallée de ceux qui sont tombés pour Dieu et pour l'Espagne, c'est-à-dire les morts de la droite, les franquistes. Et plus tard, semble-t-il, il fut décidé que ça pourrait être un symbole de paix, de fraternité nationale. Mais ce fut une décision postérieure.
Donc en fait, ce sentiment de vouloir donner un sens de réconciliation au monument, qu'il soit sincère ou pas, cela n'a pas fonctionné.
Ce monument ne peut être transformé en monument de la réconciliation. On ne peut pas changer la signification d'Auschwitz. On ne peut pas. Auschwitz fut ce que ce fut. Cela ne peut être un monument à la réconciliation avec les Juifs. Non. On ne peut changer la signification du Valle de los Caídos. C'est un monument symbole de l'un des côtés. C'est un grand monument national catholique qui est la version espagnole du fascisme. Et on devrait le visiter comme tel, comme on visite Auschwitz. Et il faut l'expliquer. Avec des photographies des prisonniers de guerre qui y ont travaillé, avec des guides qui expliquent ce que fut le sens de ce monument. Voilà ce qui devrait être.
Alors aujourd'hui, malgré tout, avec la décision du gouvernement d'exhumer Franco, le 10 juin a-t-il été dit, on voit bien que les débats, que les cicatrices de la guerre ne se sont pas refermées.
Les cicatrices d'une guerre civile sont terribles. Il faut au moins 3 générations pour les soigner. Dans le sud des États-Unis, la blessure de la guerre civile n'est toujours pas complètement refermée. Et cela fait 150 ans. Les guerres civiles, il faut du temps pour les guérir. Surtout quand la guerre se termine par la victoire de l'un des côtés. S'il y avait eu un accord, ce serait autre chose, mais une guerre qui se termine par la victoire de l'un des côtés, et si en plus se maintient le climat de guerre civile, parce que l'état de guerre s'est maintenu pendant plus d'une décennie après la fin de la guerre. Il y a eu des fusillés. Franco a fait fusiller des dizaines de milliers de personnes après la guerre. C'est dire que le climat de guerre civile a continué. Et ça, c'est plus difficile de le guérir.
Adios. 80 ans après la fin de la guerre civile, l'Espagne ne s'est donc pas encore réconciliée avec elle-même. Et loin des défilés de nostalgiques du franquisme au ballet de Los Caídos, à Madrid, ville de foisonnement culturel, des artistes militent pour que la mémoire soit enfin libérée. Pour en témoigner, une exposition est actuellement organisée en partenariat avec le ministère de la Justice. C'est au Centre culturel Galiléo que nous retrouvons Marie-Pierre Véro en compagnie de la coordinatrice du projet, peintre elle-même, Cayetana Galbete.
Interception sur France Inter.
Ça, c'est comme le camel. C'est un dictateur d'opérette, un peu. Et là, comment est-ce qu'on pourrait dire, il est comme l'archange.
Oui, c'est comme un dieu, parce que finalement, c'est aussi un.
Dans ce pays, il y a une impunité malsaine.
Insana. Et que esto
hay il que faut l'évacuer. Cette exposition, c'est une manière de l'évacuer. Mais elle ne peut pas avoir de caractère politique. C'est une question de salut national. On ne peut nier le passé sans s'informer. Ce sont des choses essentielles qui ne sont ni de droite, ni de gauche, ni du centre. C'est une question de dignité nationale et de salut national. Parce qu'en fait, ce que l'on tente de faire, c'est de rappeler ce qu'il s'est passé et essayer de dire non, le négationnisme ne peut être ni ici, ni ailleurs.
Parce que vous pensez que ce négationnisme, c'est un risque réel aujourd'hui en Espagne ?
Mais ce n'est pas un risque, c'est une réalité.
La majorité des gens ne le savent pas. Il n'y a pas de conscience. Parce que dans les collèges, ils n'y enseignent pas l'histoire. Parce que les familles ne racontent rien. Parce que le million de morts a agi comme une sorte de pédagogie. La leçon a été très bonne. Les gens ont la peur incrustée dans leurs os.
Ce que vous nous dites, là, de la guerre civile, de ce que l'on peut comprendre à travers ces œuvres, les élèves au collège, à l'école, ne l'apprennent pas, ne le savent pas ?
Non, ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé.
On dit qu'il y a eu une guerre, et c'est tout. Mais on ne dit pas qui a provoqué la guerre. Pourquoi ? On ne l'étudie pas. Regardez ici, vous avez 2 jeunes artistes.
Ici, vous nous dites, ce sont des jeunes artistes. Alors, on va peut-être décrire ces panneaux, hein, ces grandes toiles. L'une, c'est une croix surmontée du drapeau espagnol qui coule, dont le rouge coule comme des coulées de sang et qui est entourée de crânes.
Et il l'appelle
nos morts.
Et l'on voit sur cette croix, hein, Arriba España, qui était le slogan des phalanges. España,
hein. Oui, Arriba España, c'était la phrase des phalangistes. Arriba España, la faction nazie.
Et alors, il y a toute une section de ce côté où il est fait référence sans doute aux enfants volés.
Oui, c'est une femme qui réalise des œuvres sur les enfants volés. Ça a commencé avec le franquisme. Mais cela a continué jusque dans les années 80. C'était au départ une question idéologique. Il y avait ce médecin qui s'inspirait du nazisme, de l'idéologie hitlérienne de la génétique. Et ce monsieur parlait du gène rouge. Les enfants, les bébés des femmes républicaines avaient un gène rouge. Et il fallait l'extirper. Au nom de cette idéologie, il volait les enfants des femmes qui étaient emprisonnées. Il les donnait ou les vendait aux franquistes, aux phalangistes, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne savent toujours pas que cela a existé, qui n'ont aucune idée de cela. Et ensuite, à partir des années 50-60, c'est devenu un commerce organisé par les nonnes. Elles volaient les enfants et les vendaient. Un véritable commerce.
Et là, on voit donc tous ces petits poupons suspendus, la tête en bas, devant ces rideaux noirs et rouges, d'autres à terre, désarticulés.
Oui, anéantis.
Próxima estación.
Puerta de Toledo. Atención. Estación en curva. Al salir, tengan cuidado para no volver.
Eh bien, nous voici dans un quartier au sud de Madrid, dans la banlieue madrilène, un quartier populaire, hein, pour ceux qui s'appelle le quartier Pozo del Tío Raimundo, des petits immeubles en briques rouges. On entend les oiseaux, il vient de pleuvoir. Mais c'est vraiment, on voit bien que c'est un quartier assez pauvre. Des voitures de la police patrouillent. Et nous allons retrouver Pamela Palenciano, très connue en Espagne. C'est une femme qui a un spectacle, un monologue, qui s'appelle « Il n'y a pas que les coups qui font mal, no solo duelen los golpes, il n'y a pas que les coups qui blessent ». Et c'est son histoire qu'elle raconte, c'est l'histoire de ses premières années, quand elle a été battue par son mari, la manière dont elle a pu s'en sortir, et dont elle en a fait un spectacle, et c'est ce qu'elle va nous raconter. Voilà, donc la porte.
Hola, bienvenida.
Gracias. Bienvenida. Buenas tardes, Pamela.
Yo soy
Marie-Pierre, periodista francesa de la radio. Muchas gracias por recibirnos.
Gracias.
Est-ce que vous pouvez nous dire votre histoire, dont vous avez fait un spectacle ?
Eh bien, je suis tombée amoureuse de mon premier petit ami à 12 ans. À l'adolescence, j'ai eu droit à ma ration de violence machiste. Il était très jaloux. Il contrôlait tout. Pas seulement parce qu'il était machiste, mais parce qu'il est un homme et ils sont éduqués à être comme cela. Comme je ne me laissais pas faire, il m'embrouillait. Il exerçait réellement une grande violence psychologique contre moi. Tout type de violence. Émotionnelle, symbolique, sexuelle et physique. J'ai passé des années, 6 années, à attendre qu'il change. C'est ce que moi, en tant que femme, j'avais appris. Attendre comme la princesse du conte. J'ai attendu que revienne le garçon dont j'étais tombée amoureuse. Ça m'a coûté beaucoup d'admettre que c'est ce que j'avais vécu, c'était de la maltraitance.
Et después, et ensuite, une fois que vous avez pris conscience de cela, vous avez décidé de quitter cet amoureux, cet homme ?
D'abord, il a essayé de me tuer, 2 fois. Alors pour le quitter, ça a été très compliqué. J'ai dû changer de ville parce qu'il me poursuivait. Et ce fut ma chance, c'est ce qui m'a sauvé la vie. Vraiment, c'est la terre qui nous séparait. Sinon, il aurait sans doute essayé de me tuer 1/3 fois.
Mais il a essayé de vous tuer ?
Oui, oui. Mais pour moi, ce n'est pas le plus grave. Pour moi, le plus grave, c'est de penser que pendant 12 ans, je me suis sentie comme une merde. C'est pour cela que mon spectacle s'intitule « Il n'y a pas que les coups qui font mal ». Je parle de ces violences pour que les gens comprennent à quel point elles sont ordinaires. Un silence de ton compagnon et tu lui demandes « Qu'est-ce qui t'arrive ? » Et il ne te répond rien, mais il te fait sentir qu'il est en colère par ta faute.
Comment réagit le public ?
Eh bien, la majorité des filles pleurent. Elles se sentent concernées. Elles s'identifient beaucoup. Soit c'est leur propre histoire, soit elles pensent à une amie ou à leur mère. Quant aux garçons, si leur mère subit des violences, ils sont réceptifs à mon spectacle. Mais pour la plupart, ils sont mal à l'aise. Ils sont mal à l'aise parce que ce sont des adolescents et que je leur dis en pleine figure « ta manière d'être un homme ne vaut rien ». Et ils sont en colère contre moi, je le comprends. Mais c'est mon but, qu'ils rentrent chez eux mal à l'aise, gênés. C'est comme cela qu'ils vont réfléchir. S'ils ne ressentent pas de gêne, ils ne réfléchiront pas.
Des manifestations aux quatre coins de l'Europe pour la journée des droits des femmes. Avec un thème, Balance for Better, un plaidoyer pour une société plus équilibrée entre les deux sexes. À Madrid, le contexte est particulier avec l'entrée probable du parti d'extrême droite Vox au Parlement national, qui souhaite abroger les lois sur les violences sexistes.
Nous descendons aussi dans la rue contre la précarité et l'austérité. Le 8 mars est un jour important, c'est le jour de tous ces combattants.
Bon, je m'appelle Justa Montero, je suis une activiste féministe depuis longtemps parce que j'ai commencé à la fin de la dictature, juste à la fin, dans les années 73, pour la liberté, pour la démocratie et pour la défense des droits des femmes.
Ben, je suis Isabelle Cadenas Cañón et je fais partie aussi du mouvement féministe ici à Madrid.
Qu'est-ce qui explique que l'Espagne soit à ce point mobilisée et dynamique dans cette lutte pour les droits des femmes ?
Aujourd'hui, concrètement, les femmes rencontrent énormément de problèmes. Il y a des inégalités énormes. Nous sommes plongés en plein milieu d'une crise brutale avec des politiques néolibérales qui accroissent les inégalités. Nous sommes dans un moment où la vie est tellement précaire qu'elle ne permet aucun projet de vie. Et nous sommes dans un moment où il y a une violence machiste impressionnante. Rien qu'hier, on a appris que trois femmes de plus ont été assassinées dans différentes villes du pays. Trois femmes. C'est terrible. Cela choque la société. Cela explique l'indignation, la rage et le soulèvement des femmes dans ce pays et les immenses mobilisations qu'elles organisent.
Quand on nous demande à ma génération ou aux plus jeunes pourquoi le mouvement féministe est si fort ici à Madrid, ben nous on dit toujours parce qu'on a vraiment des femmes qui nous ont montré pas seulement le chemin, mais surtout la forme de faire politique. Ça veut dire qu'il n'y en a pas... Oui, il y a des gens qui peut-être font partie des partis politiques ou des syndicats, mais on n'a aucune relation ou aucune pression ou on ne reçoit pas d'argent des syndicats ni des partis politiques. Et ça, c'est assez important de dire. C'était vraiment très important de préserver l'autonomie du mouvement féministe.
Je crois qu'il y a une chose très importante, c'est que nous avons réussi à créer un mouvement féministe réellement intergénérationnel, réellement inclusif, où toutes les femmes ont une place. Et en plus, cela génère une créativité énorme, dans les formes de lutte, dans la façon d'exprimer la révolte, dans les discours. Et cela va générer, disons, plus d'enthousiasme et de force. Et je crois que c'est très important. Il y a aussi autre chose, c'est le succès d'un certain féminisme dans lequel je me reconnais, je pense qu'Isabelle aussi, qui est un féminisme qui ne se victimise pas, c'est-à-dire toutes les femmes ont un agenda politique. Toutes les femmes sont capables d'exprimer leurs problèmes, leurs besoins, leurs demandes. Tout cet ensemble de choses, c'est ce qui permet aujourd'hui au mouvement féministe espagnol d'avoir une force et un pouvoir qui sont reconnus par absolument toute la société, tous les médias, toutes les forces politiques, absolument toute la société.
Mais qu'est-ce qu'elles ont, ces femmes espagnoles, pour avoir cette force-là ? qu'elles imposent à toute la société, à la classe politique, etc. C'est parce que le machisme est aussi très fort, c'est une réaction.
Moi, je pense toujours à comment on fait politique. Je pense qu'on n'a pas la réponse que vous voulez. Donc, on ne sait pas pourquoi. Mais on sait que c'est, et ça, c'est assez important. Et ce qui s'est passé, par exemple, avec la grève l'année passée, la première année, la deuxième année qu'on a fait la grève, ça a été que...
La grève des femmes, le 8 mars. Oui, hein, oui. Les femmes arrêtent de travailler, arrêtent de travailler à la maison ou au bureau.
Oui, la grève féministe du 8 mars. La première fois qu'on l'a fait, et la deuxième fois qu'on l'a fait, ça a été vraiment un processus collectif que moi, je n'ai jamais vu ailleurs. Vraiment. Il y avait des femmes partout qui sentaient que la grève était à elles, leur appartenait. Il n'y avait personne qui leur a dit, il n'y a pas de syndicat qui leur a dit, vas-y, fais une grève. Oui, après, les syndicats ont légalisé la grève, très bien. Mais ça a été vraiment les femmes, en parlant entre elles, qui ont décidé, pas seulement de faire la grève, mais très important, comment faire la grève. C'était une grève féministe, et pour nous, une grève féministe, c'est une grève qui peut faire n'importe quelle femme. Toutes les femmes, même les femmes qui ne peuvent pas arrêter de travailler parce qu'ils n'ont pas le droit, comme les travailleuses domestiques qui n'ont pas le droit de faire la grève, ont pu faire la grève dans leur propre façon. Donc,
par exemple,
elles ont par exemple mis des tabliers dans les balcons. Et ça, c'était vraiment le grand pari du mouvement féministe, de faire une grève féministe qui semblait la folie. Et qui semblait que personne allait supporter, et qui semblait vraiment un truc de fou, et qui finalement a été impressionnant à tous les niveaux dans deux années de suite. Je pense.
Si, ici.
Oui, et nous disons toujours qu'il y a mille raisons de faire la grève féministe. Et ces mille raisons ont fait qu'effectivement toutes les femmes ont considéré que cette grève était la leur. Je crois que cela montre aussi que le mouvement féministe espagnol a réussi à formuler des propositions qui ouvrent aussi sur l'avenir, qui offrent un horizon de changement. C'est pour tout cela que le mouvement féministe espagnol est l'une des forces les plus puissantes dans la sphère sociale.
On est là. Et je pense que ça, c'est aussi une des forces du mouvement féministe en Espagne, c'est qu'on n'est pas rentré chez nous. On continue à être dans la rue.
Le taux de chômage a légèrement augmenté en Espagne au premier trimestre à 23,8%. La baisse du nombre de chômeurs a en effet été effacée par le recul de la population.
À quelques 200 km à l'ouest de Madrid s'offre un autre tableau de cette Espagne contemporaine dont la jeunesse est plombée par le chômage. Un tiers des jeunes sont concernés, beaucoup retournent vivre chez leurs parents. C'est le cas de Victor que nous retrouvons avec sa mère, Flora, dans le petit village de Candeleda. Ce retour au village, un choix un peu contraint tout de même.
Et pour le... Enfin, c'est ce qu'on appelle paprika, mais ce n'est pas de paprika. Le pimenton, ce n'est pas le paprika, hein, il faut le dire. C'est tout à fait différent. Ça ne vaut pas le coup.
Il n'y a plus personne pour reprendre les terres.
Non, les terres, elles sont presque abandonnées, c'est vrai. Et voilà, on a des chiens. Et là, les cerisiers, si vous ne les connaissez pas, vous allez les connaître, voilà. Vous voyez, il y a des petites cerises.
Ce sont des tomates, des melons.
Et qu'est-ce que vous allez faire avec ça? C'est pour vous-même?
C'est beaucoup de la production, c'est pour nous-mêmes. Les excédents de production, ben, on peut les vendre. On les vend à des magasins du village de Candeleda.
Ça vous fait un petit revenu?
Oui,
pas grand-chose,
mais...
Parce qu'on sait à quel point c'est difficile pour les jeunes de trouver du travail en Espagne aujourd'hui. Hein.
C'est difficile.
Qui vous plaît, c'est surtout, il n'est pas très bien payé, parce que dans les années 2005-2010, encore, on disait des 1000 euristas, vous savez, parce qu'ils gagnaient 1000 euros, 1000 et quelques. Et les jeunes disaient, oh, 1000 euristas. Pour eux, c'est... Mais maintenant, on n'arrive même pas à ça. Mais dans un village, même s'il y a 5000 habitants...
Mais on peut vivre avec un peu moins d'argent. Tu peux faire ce que tu veux. Moi, j'aime les chevaux. Je suis maréchal ferrant. Et je fais ce que...
Ce que vous aimez.
Ouais. Et c'est ça, t'as un privilège.
Mais le jour où il voudra avoir des enfants et une famille comme traditionnelle, entre guillemets, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que maintenant, il y a les parents qui sont là, mais un jour, on ne sait jamais. Donc moi, je pense qu'il doit commencer à penser un petit peu plus sérieusement, à trouver quelque chose ailleurs, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour monter ici une entreprise. Mais lui, il a fait l'université, 5 ans d'université, un master.
Vous étiez où? Où est-ce que vous avez fait vos études?
Alors, j'ai étudié au lycée français de Madrid depuis que j'avais 3 ans, jusqu'à 18 ans, jusqu'à la fin, jusqu'au baccalauréat. Et après, j'ai fait la Selectividad Española. J'ai fait administration et direction d'entreprise à l'université autonome de Madrid pendant 4 ans. Et après, j'ai fait un master de marketing pendant un an.
C'est un sacré diplôme que vous avez.
Et oui, mais justement, ça me fait de la peine qu'il soit là, parce qu'il a fait ça. Et après, pendant qu'il faisait le master, il s'est levé à 6 heures du matin, pour vous dire, pour aller faire le cours pendant 3 mois de Maréchal Ferrand.
Et ce diplôme de Maréchal Ferrand, vous pouvez l'exercer, votre métier ?
J'exerce comme Maréchal Ferrand ici. Il n'y a pas beaucoup de chevaux, mais ça me permet de gagner certainement un peu d'argent et de survivre.
Interception, le magazine de reportage de France Inter.
L'Espagne connaît donc une crise sociale avec ces jeunes qui ne trouvent pas de travail. Crise qui est sans doute l'une des raisons de la progression électorale de l'extrême droite. Mais l'Espagne, ce sont aussi 50 provinces autonomes avec des identités propres. 50 provinces où l'autoproclamation d'indépendance catalane, en octobre 2017, a résonné comme un appel. Au nord du pays, direction la Navarre, qui jouxte le Pays basque, et où un fort sentiment indépendantiste existe également, comme l'explique ce cuisinier de Pamplune à Marie-Pierre Véro.
Je suis Joseba, j'ai 30 ans et je suis le cuisinier à la Errico Taberna de Pamplune. Ici, le conflit a commencé bien avant. En Catalogne, c'est uniquement les 5 ou 7 dernières années que ça a pris l'importance que nous connaissons aujourd'hui. Au début, d'ici, oui, on avait un peu l'espoir, l'illusion. Le jour du référendum en Catalogne, beaucoup de gens d'ici sont allés là-bas pour essayer de les aider, d'une manière ou d'une autre, de les aider à exercer leur droit de décider de leur avenir. C'est quelque chose qu'ici, on ne nous a jamais laissé faire. Finalement, d'un côté, oui, on est avec eux, mais de l'autre, c'est comme si la question catalane prenait beaucoup d'importance en ce moment. Elle devient célèbre. Pour nous, c'est un peu... Et nous, alors ? Nous avons souffert ici toute notre vie. Nous avons eu jusqu'à 800 prisonniers politiques. Il y a eu des morts aussi. C'est-à-dire qu'il y a plus de problèmes ici qui n'ont pas été réglés. On a l'impression aujourd'hui que seuls les Catalans souffrent, et ce n'est pas vraiment le cas.
Alors, nous vous retrouvons ici, Elena et Antonio, dans ce café historique de Pamplune, le café Ironia,
oui,
pour parler de l'association que vous avez créée il y a 3 ans de cela, qui s'appelle comment ?
Société Civile Navarre.
Il faut dire que c'est une association qui a un certain parallélisme avec la société civile catalane, qui a fait beaucoup dans les problèmes catalans pour la défense de la Catalogne à l'intérieur de l'Espagne, toujours avec la constitution espagnole de 1978. On a appris un peu ces modèles-là.
Quelles sont vos actions? Qu'est-ce que vous faites pour vous défendre contre ce nationalisme qui monte?
Il faut rentrer tout de suite dans les problèmes. Hein. Vous savez, ici à la Navarre, il y a une partie de la Navarre, surtout le nord, qui a une certaine culture basque. Du côté du pays basque espagnol, il y a eu depuis toujours l'envie de nous intégrer pour faire un grand pays basque. Et avec la Navarre aussi. Mais il y a beaucoup de monde ici à la Navarre, beaucoup de citoyens qui ne pensent pas que la Navarre doit rentrer dans le pays, doit rester comme une communauté autonome et avec de bonnes relations avec nos frères des Pays Bas, mais pas comme la même chose politique.
Et alors, la crise catalane a précipité un petit peu la création de votre association. Comment est-ce qu'elle résonne ici? Quel écho est-ce qu'elle a?
Nous pensons qu'il y a un problème avec l'identité.
et avec notre politicien. Parce que quand l'identité se place avant les droits et la responsabilité du citoyen, c'est un problème. Clairement, il y a en Catalogne, il y a une fracture sociale maintenant. Et nous avons peur que cette situation peut arrive ici, à la Navarre.
Parce que le chemin, c'est un peu le même.
Le même.
Un peu plus en retard, mais c'est le même. Les nationalistes, les séparatistes, ils travaillent toujours de la même façon. Ils travaillent très bien, ils travaillent beaucoup, doucement, mais ils arrivent loin.
Il y a une question en Espagne très différente à la France. En Espagne, un enfant à l'école étudie une histoire différente.
Selon les communautés. Selon les communautés autonomes.
Une langue différente. Alors, un enfant catalan ne peut pas
apprendre à l'école la langue espagnole.
Oui.
Et en plus, il a une histoire tout à fait modifiée par les intérêts nationalistes catalans.
Oui. Alors, c'est la première chose, l'éducation.
Et la langue.
Oui.
Je sais pas si en France on dit le cheval de Troie, de Troïa. Vous dites ça?
Le cheval de Troie, oui.
C'est...
Oui, la langue.
Parce que la langue, c'est la frontière.
La langue est ma frontière. Je dis toujours ça. Vous comprenez?
Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela veut dire?
Si un territoire parle une langue, à partir de ce moment-là, il y a une frontière avec l'Espagne. La langue
et l'éducation.
Ah, tout à
parce
fait.
Que l'éducation n'est pas centralisée.
Je parle instamment des élèves qui viennent du Pays Basque, très sympa, très normal. Et quand ils arrivent ici, ils croient que la Navarre est à l'intérieur administratif et politique du Pays Basque, par exemple, parce qu'ils ont appris ça à l'école. Ah, mais on n'est pas dans le Pays Basque. Non, non, vous êtes la Navarre. Le Pays Basque, c'est une chose, et la Navarre, c'est une autre. Le problème ici, c'est le problème identitaire, le problème des séparatistes, le problème des indépendantistes. Si cette conversation, vous l'avez par exemple à Extrémadura, ou en Castilla, en Albacete, ou Toledo, ça serait une conversation tout à fait différente. L'Espagne, c'est très compliqué. C'est très intéressant parce que c'est très compliqué.
Je m'appelle Pablo Pérez López, j'enseigne histoire contemporaine ici à l'Université de Navarre. Je suis professeur des universités d'État et je suis venu ici à Pampelune pour exercer la même fonction il y a 6 ans.
Et cette question de l'identité navarraise, est-ce qu'elle est présente dans la société? Qu'est-ce que ça veut dire qu'être navarrais aujourd'hui en Espagne? Puis peut-être qu'être espagnol aussi en Navarre.
En Espagne, l'identité régionale marque très fortement les gens. La Provence a été une création de la politique libérale du 19e siècle, mais il y a une identité municipale de la ville très forte qui a été comme transférée aux Provences et après quelques régions ont une originalité spéciale. Alors la Navarre, c'est une région comme ça parce qu'elle a été un règne au Moyen-Âge, indépendant, lié tantôt à la France, tantôt à l'Espagne, disons à la Castille plutôt, finalement à la Castille au XVIe siècle, mais toujours différent. Les rois de l'Espagne ont toujours reconnu qu'il y a une loi particulière pour la Navarre. Même les droits civils de la Navarre, c'est différent du droit civil du reste de l'Espagne, en quelques petites choses. Pour l'héritage, pour la propriété des terrains, pour les rapports entre familles, etc., il y a des différences. Mais dès que le nationalisme basque a eu un essor très fort au XXe siècle, la partie basque de la Navarre demande un attachement au Pays basque.
Mais il n'y a pas la crainte, s'il y avait ce rattachement au Pays basque, de perdre finalement cette spécificité navarraise?
Voilà. Et ça a créé une spécificité politique ici. C'est l'identité de la défense de la Navarre comme navarre et pas basquiste, disons. C'est une façon de voir comment, en Espagne, le problème en cette question des régions, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, nous voulons être différents, mais en même temps, nous voulons être égales. Ça, c'est la difficulté politique. Comment reconnaître la différence catalane, mais en même temps dire ils n'ont pas de privilèges par rapport au reste des Espagnols.
Donc cette Espagne aujourd'hui, elle est en quête de son identité un petit peu?
Ça c'est le problème au fond de l'Espagne. L'identité espagnole est liée à l'accord des identités régionales. Alors on ne peut pas être espagnol sans reconnaître les identités des régions d'une façon très claire. Parce que nous avons beaucoup de montagnes. Et ça, c'est la raison géographique d'une dérive historique aussi. Alors, il y a une diversité qui est très bonne pour l'Espagne, mais qui pose des problèmes de temps en temps. Alors, quand il y a un problème d'identité qui va être rempli par la création de nouvelles identités politiques, l'avantage de la diversité peut devenir un problème sérieux. Nous ne pouvons pas avoir un jacobinisme comme en France qui va faire tous les pays homogènes. La dérive moderne espagnole s'est faite en compatibilité avec la diversité régionale. Mais ce n'est pas facile à maintenir l'équilibre.
C'était le Kaléidoscope espagnol, un reportage de Marie-Pierre Véraud. Prise de son Stéphane Beaufils, mixage Julien Chabassu. Réalisation Stéphane Combe. À la semaine prochaine.